Et nous sommes de retour en compagnie de Ray Lalonde, que vous pouvez suivre également sur Twitter avec son appellation commerciale Real Ray Lalonde. Bonsoir, Ray.
Salut, Mario.
Et il y a les podcasts de Focus également qu'on peut écouter sur YouTube et SoundCloud. Ray, plusieurs sujets à la chronique Sport Business ce soir. Dans un premier temps, les personnages les plus influents dans le monde du sport selon le Sports Business Journal.
Ouais, Mario, tu sais, ça c'est une étude annuelle. C'est un classement qui est effectivement subjectif de la part des dirigeants de Sports Business Daily, Sports Business Journal. Mais pour le suivre de très près depuis une quinzaine d'années, et pour reconnaître le choix intéressant en 2016 d'Adam Silver, en 2017 de Donald Trump, puis cette année, le plus influent, c'est la personne anonyme, The American Sports Gambler. Tu vois, alors, pour représenter et symboliser l'importance de cette décision extraordinairement unique de la Cour fédérale, cet été aux États-Unis, qui a transformé le marché américain de la mise et du pari sportif. Les Américains peuvent miser sur leurs équipes maintenant, Mario, comme tu le sais, grâce au lobbying de plusieurs commissaires, dont Adam Silver. Alors, le parieur est le joueur, l'individu, la personne anonyme la plus influente. Parce qu'on parle de milliards de dollars dans une transformation de l'environnement sportif. Ne serait-ce que la NFL... On prédit déjà 2,3 milliards de dollars US de revenus supplémentaires à la Ligue uniquement grâce aux paris sportifs. Et ça ne fait que commencer.
C'est incroyable, c'est en pleine explosion. À part ça, qu'est-ce qui retient ton attention dans ce palmarès-là? Mais je dois dire que ça frappe comme choix du personnage ou des personnes les plus influentes.
Tu sais, moi, je regarde toujours un peu, effectivement, de façon réelle, là, les dirigeants, les leaders du sport mondial. Puis je vois des gars comme Gary Bettman, qui a quand même une position intéressante comme dixième. Je regarde Rob Manfred, le commissaire du baseball, parce qu'on parle pas mal de baseball ces temps-ci, qui est au cinquième rang. Je regarde Roger Goodell au troisième rang, malgré la controverse autour de lui, puis toutes les décisions qui ont été un peu difficiles à accepter par le public vis-à-vis le comportement des joueurs.
Je cherche qui est deuxième.
C'est chicane avec les propriétaires, comme oui. Jerry Jones, entre autres. Le oui. deuxième, Adam Silver, bien entendu.
Bien entendu, l'NBA.
Ne serait-ce...
Avant Goodell, t'es pas surpris?
Avant Goodell. Non, pas vraiment, à cause
Ils sont cohérents à cause du gambling, parce que c'est lui qui a amené ça?
C'est oui, c'est aussi lui le premier à rentrer dans les jeux électroniques, le e-sport, avec NBA 2K League. C'est aussi celui qui a signé une entente de 9 ans et 24 milliards de dollars US en droits de diffusion. Mario, c'est beaucoup d'argent là pour un produit comme la NBA. Et c'est effectivement la NBA, la ligue la plus progressive. Alors, je veux pas paraître comme étant un ambassadeur pour la NBA, mais c'est difficile de regarder ce que la NBA fait. Mais on le voit en compliment lorsqu'on regarde comment la Ligue nationale, la NFL puis la Major League Baseball suivent derrière en copiant et épiant les gestes de la NBA. Alors, ce sont quand même de beaux compliments à sa fiche. Alors, quelques autres noms qui sortent de l'ordinaire. Mark Parker, c'est le PDG de Nike qui est huitième. Nike possède autant d'influence aujourd'hui en 2018 que lors des meilleures années, il y a 10-15 ans, lorsque Michael Jordan et Tiger Woods étaient à leur meilleur. Mark Lazarus, le PDG d'NBC, onzième. NBC qui fait des avancements, surtout avec les droits de sport, comme la NHL et comme les Jeux olympiques, bien entendu. Jerry Jones, propriétaire des Cowboys, Robert Kraft, propriétaire des Patriots, 13e et 14e au classement. Ce sont les deux propriétaires les plus influents de la plus grosse ligue commerciale aux États-Unis. LeBron James, 15e. Premier athlète qui rentre dans le classement, 15e rang.
L'athlète le plus influent Absolument. Au monde, donc, ou en Amérique?
En Amérique. Je suis obligé de dire en Amérique. Parce que personne ne se compare
Messi,
à Ronaldo
ouais.
avec 350 millions d'abonnés dans les comptes sociaux, les médias sociaux, pardon, Mario, Ronaldo. Ce que lui fait, ça change la planète au complet. Mais LeBron James, plus public, plus verbal, plus impliqué dans des œuvres que Ronaldo l'est. Ronaldo est plus populaire parce que le soccer est un sport mondial.
Et après comme avoir... le basket, mais qui ne s'est pas déployé de la même façon et à la même vitesse. Il y a moins d'ancienneté.
Moins d'ancienneté, puis effectivement, le basketball, c'est tout dans les 25-30 dernières années. Tandis que ce qu'on peut comparer avec le soccer mondial, Ronaldo joue pour Real Madrid. Ça, c'est une des grandes marques de sport de la planète. Il est avec la Juventus. Il y a beaucoup de changements qui se sont produits, ne serait-ce que depuis son arrivée là-bas. Alors, Ronaldo. Et le dernier que je veux te mentionner, c'est le numéro 36, Donald Fehr. Pourquoi je le mentionne? C'est le directeur exécutif de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. qui va encore une fois jouer un rôle important dans la négociation de la prochaine convention collective. Ça s'en vient. Alors, son influence, on va la ressentir de plus en plus. Puis, encore une fois, c'est un signe que le hockey est en bonne position aux États-Unis parce que les deux grands dirigeants, Bettman et Donald Fear, sont au 10e et au 36e rang.
Très, très rapidement, je ne sais pas si un jour elle va se hisser dans le palmarès des personnes les plus influentes du monde du sport, mais les Pacers de l'Indiana ont embauché une dame comme assistante directrice générale dans la NBA. C'est une première.
Oui, c'est une dame que je connais un peu. Elle était à l'époque avec la NBA. En 1997, elle faisait partie du groupe exécutif Kelly Kroskoff, qui a été la première directrice des opérations basketball pour la WNBA sous le régime de Val Ackerman. Alors, quand David Stern a lancé la Ligue féminine, qui aujourd'hui, après 23 ans d'existence, continue d'avancer auprès des jeunes filles puis auprès des familles, malgré le fait qu'elles perdent de l'argent comme ligue, Kelly Kroskoff avait un poste important dans la direction basketball. Là, maintenant, elle est rendue avec les Pacers d'Indiana de la NBA.
Poursuivons dans le domaine des palmarès. Forbes a publié son palmarès de la valeur des clubs. Y a-t-il beaucoup de différences ou de progression par rapport au dernier?
Ben, les deux points que je veux souligner, c'est la valeur des équipes en moyenne. 840 millions de dollars canadiens. La valeur des équipes. Mario, ce chiffre-là, là, il y a 10 ans, là, on avait vendu les Canadiens approximativement 600 millions de dollars. C'était la plus grosse somme jamais payée pour une équipe. Et c'était les Canadiens de Montréal. Là, on n'est même pas 10 ans plus tard, puis la moyenne des équipes est à 840 millions de dollars canadiens. C'est gigantesque comme chiffre. Ça te reflète encore une fois l'importance de l'économie du hockey. Malgré des franchises plus faibles, il y a des franchises qui valent beaucoup d'argent. Rangers de New York, 1,5 milliard de dollars US. Maple Leafs de Toronto, 1,45 milliard de dollars US. Canadiens de Montréal, 1,3 milliard de dollars US. Alors, la valeur des Canadiens, si c'est exact selon Forbes, ça aurait pris approximativement 1 milliard de valeur de plus en 10 ans. Bon investissement.
C'est assez fulgurant.
Ben non, mais Mario, honnêtement, on est dans le hockey, on n'est pas dans la NFL. Là.
Dans ce contexte-là, des propriétaires qui amèneraient une équipe de baseball à Montréal avec la valeur des franchises qui augmente de cette façon-là, devraient-ils payer eux-mêmes un nouveau stade de baseball sans recourir à l'aide de l'État? Et en sous-question, peut-être en question parallèle, qu'est-ce que tu as pensé de la publication de l'étude de marché de la part des investisseurs de M. Bronfman et compagnie, Mario, par rapport au potentiel ici à Montréal?
C'est deux bonnes questions. Là. Je vais te parler de l'étude de marché rapidement. Personnellement, c'est mon humble opinion. Quand tu fais une étude de marché avec 1400 personnes qui sont relativement intéressées et intriguées par le sujet, je peux pas y accorder trop d'attention. Deuxièmement, le groupe qui a reconduit l'étude et pas nécessairement une entreprise objective.
On
est toujours impliqués dans des études de sport et loisirs. Alors, je veux pas dénigrer l'étude, mais tu sais, on a parlé à 13 exécutifs, puis trois quarts voudraient acheter un billet premium. C'est-à-dire, on a besoin de beaucoup plus de preuves à l'appui que le Québec et les Montréalais vont se ranger derrière cette équipe-là. Alors, donc, bonne étude, c'est un check sur une liste de to-do qu'on doit faire. Mais je pense que ça va prendre d'autres études beaucoup plus approfondies, plus sérieuses. Par rapport à la valeur des clubs, Mario, tu sais, c'est une business de riches qui deviennent plus riches. Est-ce que les gens au Québec, ailleurs dans les villes, partout au monde, doivent se positionner pour contribuer à la richesse de gens qui sont déjà des milliardaires? C'est ça la question. Parce que oui, c'est un engin économique, mais d'autres vont argumenter que ça vient avec d'énormes défis et d'énormes contraintes, ne serait-ce que de supporter et soutenir cette équipe-là, Mario, pendant 81 matchs dans une saison. Mais sachant que les Marlins ont été vendus il y a quelques années à Derek Jeter et son groupe pour 1,2 milliard de dollars US, sachant très bien que le stade des Rays, qui a été un peu jeté à la poubelle la semaine dernière, le projet de stade, était ciblé à 900 millions de dollars US. Même si on faisait un stade de 32 000, je peux pas imaginer quelque chose qui va coûter moins de 500-600 millions de dollars. Puis je peux pas imaginer une équipe de baseball majeur qui viendrait ici, relocalisée ou en expansion, à moins de 1,2 milliard. C'est le chiffre que les Marlins ont été vendus. Alors, la facture totale, puis une masse salariale de 100 quelques millions, rajoute à ça tous les autres éléments comme des installations d'entraînement là, à West Palm Beach en Floride, Mario, et tout le reste. C'est une facture très, très élevé, de plus de 2 jusqu'à 2,5 milliards de dollars. Alors, La réponse, est-ce que les concitoyens devraient payer pour ça? Non. Est-ce que la ville et le gouvernement pourraient faciliter des choses pour aider à l'arrivée d'une équipe? Oui, jusqu'à un certain degré. Mais encore une fois, on parle de gens très riches qui doivent assumer, parce que ces franchises-là, Mario, je termine en disant ça, vont continuer de prendre de la valeur, right? Donc, tu vois l'effet d'une équipe de hockey en disant, imagine une équipe de baseball, ça va continuer d'augmenter en valeur. Ils vont être encore plus riches dans quelques années.
C'est pour ça qu'on regarde la famille Molson avec beaucoup de respect par rapport à ce qu'ils ont fait avec le Centre Bell et le Canadien. Et en terminant, un petit mot sur le fait que tu me poursuis, je te poursuis. C'est ça, l'histoire des sénateurs d'Ottawa. Ben, ouais. Eugene Melnyk raconte en 30-40 secondes.
Mon point, c'est que lui, quand que ça a tombé à l'eau, leur entente pour prendre, s'approprier l'exploitation des plaines Le Breton, alors, il se chicane avec son ancien partenaire. Il le poursuit pour 700 millions. Celui-ci se réveille aujourd'hui et le poursuit pour 1 milliard. Mario, rien de bon pour la Ligue nationale de hockey. Une tâche sur le bulletin de la Ligue. D'avoir des gars qui se chicanent à l'intérieur même de la Ligue, c'est la dernière chose que Gary Bettman veut. Alors, un peu fragile et dangereux pour la situation à Ottawa, à mon avis.
Peux-tu forcer quelqu'un à vendre? Non, il n'y a pas ce pouvoir-là.
Pas vraiment. Surtout, à moins qu'il ait causé commis une faute, Mario, là, c'est difficile de demander à un propriétaire, surtout s'il est prêt à assumer
comme un propriétaire des Clippers de la NBA. Là.
Exactement. Donald Sterling, il y a quelques années. Puis c'est Adam Silver qui l'avait sorti en 2 temps, 3 mouvements.
Ray, merci beaucoup. On te suit sur YouTube, sur Focus, sur Twitter et bien sûr aux amateurs de sport.
Bien sûr, Mario.
Merci beaucoup. Au retour, Danny Dubé qui est au Colorado. Comment analyse-t-il le cauchemar d'hier et surtout comment Claude Julien va remettre ça ensemble, va recoller les morceaux. On revient.